Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které šetří...
Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС...
La guerre de Corée se poursuit sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Taiwan.
Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere and under the authority of trust...
Dotyczyły one spraw bardzo ważnych.
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
I'm Chiquita Banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad. Grief? No, not yet, my dear. That greenish way you're looking means that you are ripe for cooking.
How about me?
No, no, when you are fully ripe, my dear, those little flecks of brown appear.
Me?
You're most digestible, my friend. Delicious, too, from end to end.
Dans ce célèbre spot publicitaire des années 50, l'United Fruit Company fait la promotion des bananes qu'elle plante notamment au Guatemala. Mais les intérêts de cette entreprise américaine dépassent de loin la production de fruits. La pieuvre s'immisce par tous les moyens depuis des décennies dans la vie politique, économique et sociale du pays pour assurer ses intérêts. En mars 1951, l'élection du président Jacobo Arbenz Guzman va changer la donne. Alexandre Rios Borde.
Le Guatemala, c'est un pays qui a une économie peu diversifiée, qui est surtout fondée sur l'exportation de produits, en particulier vers les États-Unis, et donc notamment de la banane, hein, via United Fruit. C'est un pays qui est une dictature dans les années 30-40, jusqu'en 1944. C'est Jorge Ubico qui est le dictateur local. Il est renversé en 1944 par des jeunes militaires, un peu dans ce qui est une tradition d'Amérique centrale, des jeunes militaires progressistes qui vont prendre le pouvoir, et puis qui instaurent un régime constitutionnel avec des élections. Au printemps 1950, c'est un de ces militaires qui est élu démocratiquement, qui prend le pouvoir, qui s'appelle donc Jacobo Arbenz, qui se trouve confronté à une situation de déséquilibre économique et de pauvreté auquel il veut mettre fin, quoi. Il veut engager des réformes économiques, sociales, et notamment la principale réforme dans ce genre de pays, évidemment, c'est-à-dire la réforme agraire. Il veut redistribuer les terres. Non pas sur un modèle communiste, mais plutôt sur un modèle populiste, démocratique. La référence au moins mise en avant par Arbenz dans ces années-là, c'est Thomas Jefferson. L'idée, c'est de créer une république de petits propriétaires, de bons citoyens, parce qu'économiquement indépendants, et donc de promouvoir une stabilité économique à partir d'une meilleure redistribution de la richesse socio-économique. Le problème principal, du point de vue américain, en tout cas du point de vue d'United Fruit, c'est qu'une grande partie de ces terres appartenait à United Fruit. 55 000 acres de terres de United Fruit sont redistribués, ce qui représente 44% des terres confisquées. Et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à se tourner vers le gouvernement américain pour dire que leurs intérêts ont été effectivement spoliés au Guatemala et qu'il faudrait faire quelque chose. Alors, ce qui se passe, c'est que cette petite musique que chante United Fruit, elle va rencontrer, non pas beaucoup d'intérêt direct de la part du gouvernement américain, mais elle va rentrer en écho avec des préoccupations d'ordre de guerre froide, hein, au sein du gouvernement américain. Au départ, il n'y a pas de danger immédiat. Arbenz n'est pas un communiste. Ce qui va commencer à partir de l'hiver 1952, le printemps 1953, à changer la perception du gouvernement américain, c'est les communistes qui vont profiter politiquement de la réforme agraire. Le parti communiste local s'appelle le PGT. Ce sont eux qui sont sur le terrain et ce sont eux qui opèrent physiquement la prise de terre et qui donc se rendent populaires auprès des paysans. Et donc on a l'impression qu'ils gagnent en influence. Ça devient problématique, d'autant que la CIA considère évidemment comme une sorte de prérequis que le PGT, le parti communiste local, est en lien avec Moscou et donc contrôlé par Moscou. Ce qui n'est en l'occurrence pas le cas, parce que par un fatalisme géographique, les soviétiques ne s'intéressent pas tellement au Guatemala et à l'Amérique centrale d'une manière générale dans ce début des années 1950. Et donc c'est en août 1953, pour la première fois, que la CIA reçoit un feu vert pour imaginer une opération clandestine visant à se débarrasser d'Arbenz. Donc on lance l'opération. L'idée générale, c'est qu'on doit créer les conditions d'instabilité suffisantes pour qu'une action paramilitaire parachève le mouvement et permette le renversement du gouvernement. La phase finale de l'opération se déroule en mai-juin 1954. préparé par une offensive diplomatique internationale qui vise à transformer Arbenz en suppôt des communistes dans la région. Les opérations diplomatiques américaines créent un mécanisme en quelque sorte qui radicalise tendanciellement la position d'Arbenz. C'est-à-dire qu'Arbenz, par exemple, se sachant menacé, va chercher par exemple à se procurer des armes. Évidemment, il ne peut pas se tourner vers les États-Unis qui ont suspendu l'aide militaire au Guatemala, et donc il faut se tourner vers d'autres que cela. Et donc il va se tourner discrètement vers le bloc de l'Est, ceux qui peuvent lui fournir des armes. Et donc il va faire acheter discrètement des armes tchèques qui vont être transportées par bateau au Guatemala. Les Américains vont découvrir que ce bateau est en train d'arriver. Et donc ils vont évidemment publiciser cette information, dire « Regardez, un bateau arrive chargé d'armes clandestines tchèques. Les Tchèques, c'est les Soviétiques. » Donc en fait, Arbenz, évidemment, travaille avec les Soviétiques. Donc on est évidemment dans un contexte où plus Arbenz cherche à se défendre, plus il se marque comme un suppôt des Soviétiques, qu'il n'est pas par ailleurs. Et Arbenz, lui, va en quelque sorte laisser tomber. C'est-à-dire que face à la pression, il va démissionner et quitter le pays. Il jette l'éponge. Alors, pour le gouvernement américain, c'est une grande victoire. Ça change la manière que les Américains ont de penser les conflits dans le tiers-monde. Il y a l'idée qu'on a un peu une solution clé en main, en quelque sorte, pour les situations les plus graves. La CIA devient un peu centrale dans la politique étrangère américaine, en tout cas comme moyen, en dernier ressort, d'intervention contre les gouvernements récalcitrants. En 1957, Nixon va en Amérique du Sud. À Caracas, on lui crache dessus. Les gens crient « on n'a pas oublié le Guatemala ». Et puis il y a une deuxième leçon du Guatemala, c'est pour les militants de gauche et pour les gouvernements de gauche, l'idée qu'il faut peut-être changer de stratégie, que jouer en quelque sorte la carte démocratique, que jouer la carte de la réforme dans un cadre constitutionnel face à l'impérialisme américain, c'est peut-être pas suffisant, ça marche pas. C'est en tout cas la conclusion que tire un jeune étudiant argentin de 26 ans qui a assisté au coup d'État contre Arbenz. Et ce jeune étudiant, il écrit à sa mère, il dit qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, Arbenz n'a pas eu la force ou la volonté d'armer le peuple pour résister. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Il faut changer de stratégie. Ce jeune étudiant, il s'appelle Ernesto Guevara et il saura mettre à profit cette leçon dans d'autres conflits qui l'opposeront aux États-Unis.